À proximité de l'entrée du terrain d'Arakin, grossièrement gravé à l'aide de quelques instruments rudimentaires, on pouvait lire une inscription que Muad Dib devait se répéter bien souvent. Il la découvrit durant sa première nuit sur Arrakis, alors qu'il se rendait au poste de commande ducal pour assister à la première réunion d'état-major. L'inscription était une supplique adressée à ceux qui quittaient Arrakis, mais pour l'enfant qui venait d'échapper de peu à la mort, le sens en était plus sombre encore. L'inscription disait « Ô toi qui sais ce que nous endurons ici, ne nous oublie pas dans tes prières. » Extrait du manuel de Muad Dib par la princesse Irulan.
Toute la théorie du combat repose sur le risque calculé, dit le duc. Mais lorsqu'on en arrive à risquer sa propre famille, les éléments de calcul sont noyés dans autre chose. Il se rendait compte qu'il ne retenait pas sa fureur autant qu'il l'aurait dû, et se détournant, il se mit à marcher de long en large devant la grande table. Il se trouvait seul avec Paul dans la salle de conférence du terrain de débarquement, une pièce pleine d'échos, dont le seul mobilier était constitué par la table, des chaises anciennes à trois pieds, un tableau cartographique et un projecteur installé à une extrémité. Paul avait pris place devant la table, près du tableau cartographique. Il venait de rapporter à son père l'agression du tueur-chercheur. Il lui avait dit aussi qu'un traître les menaçait. Le duc s'arrêta en face de son fils et son poing frappa la table.
« Hawat m'a dit que la maison était sûre. »
La voix de Paul était hésitante.
« Moi aussi, j'ai été furieux tout d'abord. Et j'ai maudit Hawat. »
Mais la menace venait de l'extérieur. Elle était simple, habile, directe. Et cela aurait réussi sans l'entraînement que vous m'avez donné, ainsi que bien d'autres, dont Hawat.
Tu le défends?
Oui.
Il devient vieux. Oui, c'est cela. Il devrait...
Il est sage et il a de l'expérience, dit Paul. Combien de ses fautes pouvez-vous vous rappeler?
C'est moi qui devrais le défendre, et non pas toi.
Paul sourit. Le duc s'assit devant la table et posa la main sur l'épaule de son fils.
Tu as mûri ces derniers temps, fils, dit-il. Et cela me réjouit.
Il répondit au sourire de Paul.
Hawat se punira lui-même. La colère qu'il concevra à son égard dépassera de loin la nôtre.
Par-delà le tableau cartographique, le regard de Paul se posa sur les fenêtres obscures, sur la nuit. Au dehors, quelques balustrades reflétaient la lumière de la pièce. Il décela un mouvement, reconnut la silhouette d'un garde. Puis ses yeux glissèrent sur la surface blanche du mur, derrière son père, sur la surface brillante de la table, sur ses mains croisées. La porte à laquelle le duc faisait face fut ouverte avec violence. Tufir Hawat surgit. Il semblait plus ancien et plus usé que jamais. Il parcourut toute la longueur de la table et vint s'arrêter au garde-à-vous devant le duc.
« Monseigneur, » dit-il en levant les yeux au-dessus de la tête de l'étau, « je viens seulement d'apprendre la faute que j'ai commise. Il m'apparaît nécessaire de vous présenter ma dé...
Oh! Assieds-toi et cesse de faire le pitre, » dit le duc.
Il tendit la main vers une chaise.
Si tu as commis une faute, ce fut en surestimant les Harkonnen. Leurs esprits simples ont conçu un stratagème simple. Et nous n'avions pas prévu des stratagèmes simples. Mon fils s'est donné beaucoup de peine pour me faire admettre que, s'il s'en était sorti sain et sauf, c'était en grande partie grâce à tes leçons. Et là, tu n'as en rien échoué.
Il tapota la chaise.
Allons, assieds-toi.
Hawat obéit.
Mais...
Je ne veux plus en entendre parler, dit le duc. L'incident est clos. Nous avons un travail plus urgent qui nous attend. Où sont les autres?
Je leur ai demandé d'attendre au dehors pendant que...
Appelle-les.
Le regard de Hawat rencontra celui du duc.
Sire,
Je connais mes vrais amis, Toufir. Appelle ces hommes.
Tout de suite, monseigneur,
dit Hawat, la gorge serrée. Il se tourna vers la porte.
Gurney, fais-les entrer.
Et Alec entra, précédant les hommes, les officiers d'état-major au visage tendu, suivis des seconds plus jeunes et des spécialistes, qui tous avaient un air décidé. Et tous prirent place autour de la table dans le bruit des chaises, tandis que le parfum subtil du rachag se répandait autour d'eux.
« Il y a du café pour ceux qui en désirent, » dit le duc.
Puis il les contempla tous, en songeant, « Une bonne équipe. Un homme pourrait disposer de bien pis pour ce genre de guerre. » Il attendit pendant que l'on servait le café. Il lisait la fatigue sur certains des visages qui l'entouraient. Puis il abandonna le masque de la tranquillité et de l'efficience, se leva et frappa du poing sur la table pour attirer l'attention.
« Messieurs, commença-t-il,
il semble que notre civilisation se soit si profondément accoutumée aux invasions que nous ne puissions obéir à l'ordre le plus simple de l'impérium sans que ressurgissent les anciennes manières. »
Des rires discrets se firent entendre, et Paul comprit soudain que son père venait de dire exactement ce qu'il fallait dire, avec le ton qui convenait pour dégeler l'ambiance. La lassitude même qui avait percé dans sa voix s'imposait.
« Je pense tout d'abord que nous ferions mieux d'entendre Toufir, afin de savoir s'il a quelque chose à ajouter à son rapport sur les Fremen.
Toufir ?»
Hawat leva les yeux.
« À la suite de mon rapport général, sire, il me faut entrer dans divers détails économiques. Mais je puis d'ores et déjà vous dire que les Fremen apparaissent de plus en plus comme les alliés dont nous avons besoin. Ils attendent encore avant de nous accorder vraiment leur confiance. Mais ils semblent agir avec franchise. Ils nous ont envoyé un cadeau, des distilles qu'ils ont confectionnées eux-mêmes, ainsi que des cartes de certaines régions du désert proches des points d'appui Harkonnen. »
Hawat baissa les yeux sur la table.
Leurs renseignements se sont révélés exacts, et ils nous ont considérablement aidés dans nos tractations avec l'arbitre du changement. Ils ont aussi envoyé divers autres présents. Des bijoux pour Dame Jessica, de la liqueur d'épices, des friandises et des plantes médicinales. Mes hommes s'emploient à tout examiner en ce moment, mais aucun piège ne semble à redouter.
« Tu aimes ces gens, Toufir ?» demanda l'un des hommes présents. Hawat lui fit face.
« Duncan Idaho pense que l'on doit les admirer. »
Paul regarda son père, puis Hawat, avant de risquer une question. As-tu quelques nouvelles informations concernant leur nombre ?
À en juger d'après la nourriture et divers autres éléments, Idaho pense que le complexe souterrain qu'il a visité devait abriter environ 10 000 personnes. Le chef lui a déclaré qu'il commandait à un sketch d'à peu près 2 000 âmes. Nous avons toute raison de croire que ces communautés sketch sont particulièrement nombreuses. Toutes semblent obéir à un certain Liet.
Voilà quelque chose de nouveau, dit le duc.
Il se peut que ce soit une erreur de ma part, sire. Certains éléments semblent indiquer que ce Liet pourrait être une divinité locale.
Un autre des assistants s'éclaircit la gorge avant de demander « Est-il bien certain qu'il soit de connivence avec les contrebandiers ?»
Une caravane de contrebande a quitté le siège où se trouvait Idaho pour un voyage de 18 jours. Les bêtes de somme étaient lourdement chargées d'épices.
« Il semble, dit le duc, que durant cette période agitée, les contrebandiers aient redoublé d'activité. Et ceci appelle quelques réflexions. Il ne convient pas de trop nous soucier des frégates sans licence qui opèrent au large de la planète. Mais il en est qui échappent complètement à notre contrôle. Et ceci n'est pas bon.
« Vous avez un plan, sire ?»
demanda Hawat. Le regard du duc se porta sur Alec.
Gurney, je désire que tu prennes la tête d'une délégation et que tu entres en contact avec ces romanesques commerçants. Tu seras un ambassadeur en quelque sorte. Dis-leur que je ne me préoccuperai pas de leurs opérations aussi longtemps qu'ils me verseront la dîme ducale. Hawat estime que les mercenaires et les spadassins qu'ils ont employés jusque-là pour leurs opérations leur ont coûté 4 fois plus.
« Et si l'empereur a vent de cela ?» demanda Alec. « Il tient jalousement à ses profits dans la chôme, monseigneur. »
Leto sourit. « Au vu de tous, nous verserons l'intégralité de la dîme au profit de Shaddam IV, et nous déduirons légalement cette somme de ce que nous coûte l'entretien de nos forces d'appoint. »
Que les Harkonnen répondent donc à cela.
Ainsi nous réussirons bien à ruiner encore quelques-uns de ceux qui se sont engraissés sous leur fief.
Plus de rapines.
Alec grimaça un sourire.
Ah, monseigneur, quelle magnifique feinte! J'aimerais voir la tête du baron quand il apprendra cela.
Le duc se tourna vers Hawat. Toufir, as-tu ces livres de comptes que tu me disais pouvoir acheter?
Oui, monseigneur. On les examine en détail actuellement. Mais je les ai déjà parcourus, et je peux vous donner une première estimation.
Donne donc.
En 330 journées standard, les Harkonnen réalisaient ici un bénéfice de 10 milliards de solaris.
Des exclamations étouffées se firent entendre autour de la table. Même les plus jeunes, qui avaient laissé jusque-là percer quelque ennui, se redressaient à présent en échangeant des regards stupéfaits.
« Car ils boiront la provende des mers et des trésors enfouis dans les sables, » murmura Alec.
« Alors, messieurs, » dit Leto, « en est-il un seul parmi vous qui soit assez naïf pour croire que les Harkonnen ont sagement vidé les lieux simplement parce que l'empereur le leur a ordonné ?»
Toutes les têtes s'inclinèrent dans un concert de murmures approbateurs.
« Il nous faudra gagner à la pointe de l'épée, » reprit le duc.
Il se tourna vers Hawat.
Mais peut-être le moment est-il venu de parler de l'équipement.
Combien de chenilles de sable, de moissonneuses et de matériel d'appoint nous ont-ils laissé?
La totalité, ainsi qu'il est dit dans l'inventaire impérial présenté à l'arbitre du changement, monseigneur, déclara Hawat.
Sur un geste, un jeune aide lui tendit un dossier qu'il ouvrit devant lui.
Ils ont négligé de préciser que moins de la moitié des chenilles étaient en état, et qu'un tiers seulement dispose de portants pour les emmener jusqu'au sable à Épice.
Tout ce que nous ont laissé les Harkonnen est prêt à s'effondrer. Nous aurons de la chance si nous parvenons à remettre en état la moitié du matériel, et encore plus si le car fonctionne encore dans 6 mois.
C'est exactement à quoi nous nous attendions, dit Leto. Que donne la première estimation quant au matériel de base?
Hawat consulta son dossier.
Environ 930 usines moissonneuses pourront sortir à d'ici quelques jours. Environ 6250 ornithoptères de surveillance, d'exploration et d'observation, et un peu moins de 1000 portants.
Est-ce qu'il ne reviendrait pas moins cher de reprendre les négociations avec la guilde afin d'obtenir l'autorisation de mettre une frégate en orbite pour surveiller le temps ?
Demanda Halleck.
Le duc regarda Hawat.
Rien de nouveau de ce côté, Toufir ?
Pour l'heure, il nous faut essayer d'autres solutions, dit Hawat. L'agent de la guilde n'a pas vraiment négocié avec nous. Il m'a simplement fait comprendre clairement, en tant que Mentat s'adressant à un autre Mentat, que le prix dépassait de loin nos possibilités et qu'il continuerait de les dépasser, quelles qu'elles soient. Il nous faut savoir pourquoi avant d'approcher de nouveau cet agent.
L'un des aides d'Alec s'agita dans son siège et lança « C'est injuste !»«
Injuste ?»
Le duc regarda l'homme.
« Qui parle de justice ? Nous sommes là pour faire notre propre justice. Et nous y réussirons sur Arrakis. » Nous gagnerons ou nous mourrons. Regrettez-vous de vous joindre à notre sort, monsieur ?
L'homme le regarda et répondit :
Non, sire. Vous ne pouvez laisser échapper la plus riche source de revenus de notre univers, et je ne puis que vous suivre.
Pardonnez cette intervention, mais, il haussa les épaules, nous sommes tous amers parfois.
Je comprends cette amertume, dit le duc.
Mais ne nous en prenons pas à la justice quand nous avons nos bras et toute liberté de nous en servir.
Y en a-t-il d'autres parmi vous qui ressentent de l'amertume ? En ce cas, qu'ils parlent.
Ceci est une assemblée amicale et chacun peut y exprimer ses sentiments.
Je crois que ce qui nous irrite, dit Alec, c'est qu'aucun volontaire des grandes maisons ne se présente. On vous donne le titre de Leto le Juste et l'on vous promet une amitié éternelle, pour autant qu'il n'en coûte rien à personne.
Ils ignorent encore qui doit sortir vainqueur de ce changement, dit le duc. La plupart des maisons se sont enrichies en prenant un minimum de risques. Nul ne peut vraiment leur en vouloir. On ne peut que les mépriser. Il regarda Hawat.
Mais nous parlions du matériel.
Veux-tu nous projeter quelques exemples afin de familiariser un peu les hommes avec cet équipement ?
Hawat acquiesça et fit un geste à l'adresse d'un de ses jeunes assistants qui se trouvait près d'un projecteur. Une image solido à trois dimensions se matérialisa sur la table. Certains des hommes présents se levèrent afin de mieux voir. Paul se pencha en avant. Il examinait la machine qui venait d'apparaître. Elle avait environ 120 mètres de long sur 40 de large. Derrière elle apparaissaient de minuscules silhouettes humaines. Elle ressemblait à quelque énorme insecte se déplaçant sur de larges trains indépendants de chenilles.
Une usine moissonneuse, dit Hawat. Nous en avons sélectionné une bien réparée pour cette projection. La première équipe d'écologistes impériaux était accompagnée d'un matériel de ce type et qui fonctionne encore actuellement, bien que j'ignore comment et pourquoi.
S'il s'agit de celle qu'ils appellent la vieille Marie, elle est bonne pour le musée, dit quelqu'un. Je crois que les Harkonnen s'en servent comme d'une punition et qu'ils en menacent leurs travailleurs. S'ils ne se montrent pas dociles, ils sont bons pour la vieille Marie.
Autour de la table, des rires s'élevèrent. Paul leur demeura étranger.
Toute son attention était concentrée sur la projection et sur les questions qui défilaient dans son esprit. Il tendit la main et dit « Tophir, existe-t-il des vers de sable assez énormes pour avaler cette machine ?» Un silence tomba sur la table. Le duc jura en lui-même, puis songea « Non,
il faut qu'ils affrontent les réalités de ce monde. »
« Il y a dans le désert des vers de sable assez grands pour ne faire qu'une bouchée de cette usine, » dit Hawat. « Ici même, à proximité du bouclier, là où l'on extrait la plus grande partie de l'épice, il existe des vers qui pourraient broyer cette usine et la dévorer comme un rien. »
« Pourquoi n'utilise-t-on pas les boucliers ?» demanda Paul.
« Selon les rapports d'Idaho, » dit Hawat, « il serait dangereux dans le désert. Un simple bouclier individuel suffirait à attirer le moindre ver à des centaines de mètres à la ronde. Il semble que cela crée en eux une frénésie meurtrière. À ce sujet, nous n'avons aucune raison de ne pas en croire la parole des Fremen. Idaho n'a trouvé aucune trace d'un équipement de bouclier dans le siège où il se trouvait.
Aucune ? Demanda Paul.
Il serait très difficile de dissimuler ce genre de matériel au milieu d'une population de 1000 personnes, dit Hawat. Idaho avait librement accès à tous les secteurs du siège. Il n'a pas aperçu un seul bouclier ni décelé le moindre indice.
C'est une énigme, dit le duc.
Il est certain, reprit Hawat, que les Harkonnen ont largement employé les boucliers. Ils disposaient d'ateliers dépôts dans chaque village de garnison, et leur comptabilité fait apparaître de lourdes dépenses consacrées à l'achat de boucliers ou de pièces détachées.
Est-ce que les Fremen ne pourraient pas détenir un moyen d'annuler les boucliers ? Demanda Paul.
Ça paraît improbable. Bien sûr, en théorie, c'est possible. Une contrecharge statique pourrait venir à bout d'un bouclier, à condition qu'elle ait les dimensions d'un territoire. Mais personne n'a jamais pu tenter l'expérience.
Nous en avions déjà entendu parler, dit Alec. Les contrebandiers ont toujours été en contact étroit avec les Fremen, et si un tel dispositif avait été disponible, ils l'auraient acheté. Ils n'auraient aucun scrupule à l'exporter.
Je n'aime pas que des questions de cette importance restent en suspens, dit le duc. Tophir, je veux que tu accordes la priorité absolue à la solution de ce problème.
Nous y travaillons déjà, monseigneur.
Hawat s'éclaircit la gorge.
Mais Idaho
a dit une chose intéressante, que l'on ne pouvait se tromper sur l'attitude des Fremen envers les boucliers. Il a dit qu'ils s'en amusaient avant tout.
Mais le duc fronça les sourcils.
L'objet de cette assemblée est l'équipement d'épissage.
Hawat fit un geste à l'intention de l'homme au projecteur. L'image solido de l'usine moissonneuse fut remplacée par celle d'un appareil ailé qui semblait gigantesque auprès des minuscules silhouettes humaines qui l'entouraient.
« Voici important, » commenta Hawat. « Pour l'essentiel, c'est un ornithoptère de grande taille, dont l'unique fonction est de déposer les usines dans les sables riches en épices et de les reprendre lorsqu'apparaît un ver des sables. Et il en apparaît toujours un. Le moissonnage de l'épice consiste à en récolter et à en rentrer autant que possible. »
« Ce qui convient admirablement à la morale Harkonnen, » dit le duc.
Les rires éclatèrent brusquement, trop fort. L'image d'un ornithoptère remplaça celle du portant.
« Ces ornis sont très conventionnels, » expliqua Hawat. « Leurs possibilités sont accrues par des modifications majeures. On a pris grand soin de protéger les parties essentielles contre le sable et la poussière. 1 sur 30 seulement est équipé d'un bouclier. Le poids du générateur ainsi gagné permet d'accroître le rayon d'action. »
« Ce semi-abandon des boucliers ne me plaît guère, » murmura le duc.
Et il songea, « Est-ce donc là le secret des Harkonnen ? Cela signifie-t-il que nous n'aurions même pas la possibilité de fuir à bord de nos frégates à boucliers si tout venait à se retourner contre nous ?»
Il secoua violemment la tête pour chasser ses pensées et reprit. « Passons à l'estimation du rendement. Quel devrait être notre bénéfice ?»
Hawat tourna 2 pages de son carnet.
Après avoir évalué le matériel en état et le coût des diverses réparations, nous obtenons un premier chiffre pour nos frais d'exploitation. Bien entendu, nous l'avons encore diminué afin de nous ménager une marge de sécurité.
Il ferma les paupières dans un état de semi-transe mentate et poursuivit.
Sous les Harkonnen, les salaires et les frais d'entretien ne dépassaient pas 14%. Avec de la chance, nous les limiterons à 30% durant les premiers temps, en tenant compte des réinvestissements et des facteurs de développement, et sans omettre les frais militaires et le pourcentage du CHOM, notre marge de bénéfice devrait se trouver réduite à 6 ou 7%, jusqu'à ce que nous ayons remplacé le matériel hors d'état. Ensuite, nous devrions être en mesure de relever cette marge jusqu'à 12 ou 15%, ce qui est la norme.
Il rouvrit les yeux.
À moins que Monseigneur désire adopter les méthodes Harkonnen.
Nous sommes ici pour établir une base planétaire permanente et solide, dit le duc. Pour cela, il faut qu'une majorité de la population soit satisfaite, et spécialement les Fremen.
Tout spécialement les Fremen, dit Hawat.
Sur Caladan, notre suprématie dépendait de notre pouvoir sur les mers et dans les airs. Ici, nous devrons développer ce que j'appellerai le pouvoir du désert. Nous pouvons tout aussi bien lui adjoindre ou non le pouvoir aérien, mais j'attire votre attention sur la pénurie en bouclier pour les ornithoptères.
Le duc secoua la tête.
Les Harkonnen comptaient sur les apports extraplanétaires pour leur personnel de base. Nous ne pouvons nous le permettre. Chaque nouvelle vague d'arrivants nous amènerait son lot de provocateurs.
Alors nous devrons nous contenter de bénéfices moindres et de récoltes mineures, dit Hawat. La production de nos 2 premières saisons ne devrait pas atteindre le tiers de la moyenne Harkonnen.
C'est exactement ce que nous avions prévu, dit le duc. Il nous faut faire vite avec les Fremen. J'aimerais disposer de 5 bataillons complets de troupes Fremen avant notre première réunion avec le CHOM.
Cela nous laisse peu de temps, sire.
Nous n'en avons guère, tu le sais bien. À la première occasion, ils seront là, accompagnés par des Sardaukars portant la livrée des Harkonnen. Selon toi, Toufir, combien en débarqueront-ils ?
4 ou 5 bataillons tout au plus, si l'on tient compte du coût des transports de troupes de la guilde.
En ce cas, 5 bataillons de Fremen en plus de nos propres forces feraient l'affaire. Attendez seulement que nous amenions quelques prisonniers Sardaukars devant le conseil du Landsrad, et vous verrez si les choses ne changeront pas, bénéfice ou non.
Nous ferons de notre mieux, sire. »
Le regard de Paul se porta sur son père, puis revint à Hawat. Il prit soudain conscience du grand âge du Mentat. Hawat avait servi 3 générations d'Atreides. L'âge. Il se lisait dans l'éclat terni de ses yeux bruns, dans ses joues craquelées et recuites par les climats exotiques, dans la courbe de ses épaules, dans le trait mince de ses lèvres teintes de la couleur d'érelle du jus de Sappho. Tant de choses dépendent de ce vieil homme, songea Paul.
Nous sommes actuellement lancés dans une guerre d'assassins, disait le duc, mais qui n'a point encore atteint toute son ampleur. Tufir, dans quelles conditions se présente le dispositif Harkonnen ?
Nous avons éliminé 259 de leurs hommes de confiance, monseigneur. Il ne subsiste pas plus de 3 cellules Harkonnen, en tout 100 de personnes.
Ces créatures d'Harkonnen que vous avez éliminées appartenaient-elles à la classe possédante ?
La plupart étaient nettement situées, monseigneur, dans la classe des entrepreneurs.
Je veux que tu fasses fabriquer des certificats d'allégeance comportant chacun la signature de ces hommes. Fais-en remettre des copies à l'arbitre du changement. Nous soutiendrons légalement que ces hommes se trouvaient ici sous une fausse allégeance. Que l'on confisque leurs biens, qu'on leur prenne tout, qu'on chasse leurs familles, qu'on les dépouille totalement. Et assure-toi que la couronne perçoive bien ses 10%. Tout cela doit être légal.
Tufir sourit, révélant ses dents rouges.
Voilà une manœuvre bien digne de monseigneur. J'ai honte de ne pas y avoir songé avant.
De l'autre côté de la table, Alec fronça les sourcils et il surprit une expression aussi sombre sur le visage de Paul. Mais toute l'assemblée souriait et approuvait. C'est une faute, se dit Paul. Les autres n'en seront que plus agressifs. Ils ne gagneraient rien à se rendre. Il savait que la rétribution ne connaissait aucune règle, aucune entrave. Mais l'acte projeté pouvait les détruire, quand bien même il leur donnerait la victoire.
« J'étais un étranger en terre étrangère », cita Alec.
Et Paul le regarda, reconnaissant une phrase de la Bible catholique orange, et se demandant, Gurney lui aussi souhaiterait-il mettre un terme au stratagème tortueux ? Le regard du duc se posa sur les fenêtres et l'obscurité au-delà, puis revint à Alec.
« Gurney, combien de ces hommes des sables as-tu réussi à persuader de rester avec nous ?
286 en tout, sire. Je pense que nous devons les accepter et nous estimer heureux. Ils appartiennent à des catégories qui nous seront utiles. »
« Ils ne sont pas plus nombreux ?»
Le duc se mordit les lèvres.
« Bien. Alors, fais dire que... »
Il fut interrompu par un bruit au dehors. Puis Duncan surgit entre les gardes, parcourut toute la longueur de la table et se pencha pour parler à l'oreille du duc. Celui-ci tendit la main.
« Parle à voix haute, Duncan. Comme tu peux le voir, ceci est une réunion stratégique.